Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. Bienvenue à tous. Maltraitance des enfants, que dit la loi congolaise à ces sujets? On en parle dans cette émission avec Maître Charles Mouchizi, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Nous recevons également Maître Mputu Ilwa, président du tribunal pour enfants de Ndjili. Des questions et préoccupations par rapport à la maltraitance des enfants, composez le 081-890-63-94. Écrivez-nous également à service@radiookapi.net. Comment bien organiser une chaîne de solidarité nationale en cas de catastrophe? Modeste Moutinga, ministre des Affaires sociales et Action humanitaire, sera notre invité dans la deuxième partie de cette émission. Nous recevons également depuis Goma, Pasteur Camille Toto, président de l'association Un Jour Nouveau. Des questions et préoccupations, le standard est déjà ouvert. Composez le 081-890-63-94, écrivez-nous à service@radiookapi.net. Marcel Ngombo coordonne cette émission, Tati Mapukula réalise. Au micro, c'est Jody Daniel Kachama, à la technique, Alain Goy.
Okapi Retro fait revivre le tube des années 60, 70 et 80.
Balingi babina musique Africa.
Africa. Tukwa bongo et tukwa bongo.
Rumba, pop, disco, slow. Des heures de musique congolaise, africaine, européenne et américaine. Lundi et mardi à partir de 23h et le dimanche à 21h.
Encore une fois, bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien, au Capi Service. Merci de nous suivre partout où vous êtes en République démocratique du Congo. Et merci à tous ceux qui nous suivent sur Internet, sur les sites de Radio Okapi, www.radiookapi.net. Nous parlons ce matin de la maltraitance des enfants. En RDC, certains enfants sont victimes de diverses formes de maltraitance de la part des adultes, de certains adultes ou même de leurs propres parents. Ils sont battus, insultés, humiliés chaque jour, chaque fois qu'ils commettent des fautes. En lieu et place des reproches faites avec amour, ils reçoivent au quotidien des paroles blessantes. Alors que prévoit la loi congolaise lorsqu'un enfant est victime de la maltraitance de la part de ses parents ou de ses tuteurs? On en parle aujourd'hui dans Okapi Service avec nos invités, Maître Charles Mouchizi, avocat au barreau de Kinshasa Matete, et nous recevrons également Maître Mputu Ilwa, président du tribunal pour enfants d'Ndjili. Alors nous avons en ligne Maître Charles Mouchizi, bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste.
Bienvenue Maître. Alors, nous parlons de la maltraitance des enfants. D'abord, comment la loi définit ce concept de maltraitance?
Le concept de maltraitance n'est pas à proprement juridique, il a plutôt une connotation sociologique, mais dans le cadre des conventions internationales et particulièrement dans les documents de l'Organisation mondiale de la santé, la maltraitance d'enfants constitue dans l'ensemble les violences et la négligence envers toute personne de moins de 18 ans. Alors, par négligence et violence, il faut entendre toutes les formes de mauvais traitements physiques ou affectifs, des sévices sexuels, de négligence ou de traitement négligent, c'est différent, ou d'exploitation commerciale ou autre, entraînant un préjudice réel ou potentiel pour la santé de l'enfant, pour sa survie, pour son développement ou pour sa dignité, dans un contexte d'une relation de responsabilité, de confiance ou de pouvoir. Alors, il s'agit en fait de toutes sortes d'infractions que vous pouvez trouver dans les deux lois de 2006 sur les violences sexuelles, mais aussi dans la loi du 10 janvier 2009 et qui est spécifique sur la protection de l'enfant en République démocratique du Congo. Et c'est en fait une série d'infractions, comme je le disais, qui partent des violences sexuelles à la maltraitance dans le domaine du travail, de la famille, etc., etc. Nous allons avoir le temps d'en parler plus abondamment dans le corps du débat.
Alors, pouvez-vous donner quelques cas, quelques exemples des cas de maltraitance qu'on retrouve souvent dans la société?
Les cas de maltraitance que nous trouvons dans notre société sont légion. Et on peut aller, par exemple, du cas de l'abandon de l'enfant, du cas du refus de scolariser un enfant, du cas de protéger un enfant qui se trouve dans une situation de danger. On se trouverait vraisemblablement dans le cas de l'article 66 ter du code pénal congolais livre 2, qui parle plutôt des abstentions coupables. On parlerait des insultes à l'endroit de l'enfant, de coups et blessures à l'endroit d'un enfant, de la privation de quelques droits qui sont dus à l'enfant mais qui ne lui sont pas donnés, soit par le parent, soit par la personne qui exerce une autorité tutélaire à l'endroit de l'enfant. En fait, il s'agit, comme je vous le dis, de toute une panoplie d'infractions, mais qui deviennent maltraitances du seul moment qu'elles sont commises à l'endroit de tout individu âgé de moins de 18 ans.
Et que dit la loi congolaise en cas de maltraitance d'un enfant?
D'abord, la loi donne à tout Congolais majeur l'obligation de dénoncer toute maltraitance qui est faite à l'endroit de l'enfant. L'article 192, alinéa 1er de la loi du 10 janvier 2009 relative à la protection de l'enfant dit clairement que toute personne a l'obligation de dénoncer toute forme de violence physique ou morale infligée à l'enfant, ainsi que toute menace à sa santé et à son développement dont elle a connaissance. Et donc, n'est pas dénoncé, comme le dit l'alinéa 2 de l'article 192 de cette loi, constitue une infraction dans le chef de quelqu'un, de toute personne qui a eu connaissance de cette maltraitance, de cette violence, de cette négligence, mais qui ne l'a pas dénoncé auprès de l'autorité qui a l'obligation de protéger l'enfant. Et l'alinéa 2, justement, dit « La non-dénonciation des violences commises sur un enfant » est puni d'une amende de 100 000 à 250 000 francs congolais. Donc tout Congolais majeur doit savoir qu'en tout état de circonstances de lieu et de temps, il a l'obligation de dénoncer toute maltraitance faite à l'enfant dont il a connaissance. Et ne pas le faire constitue une infraction dans son chef. Il peut être poursuivi d'office sur saisine directe du parquet ou sur dénonciation d'une autre personne qui sait que cette personne connaissait bien cette situation, mais qu'elle ne l'a pas dénoncée.
Voilà, donc la loi demande que toute personne qui est au courant de la situation puisse dénoncer. Mais souvent, dans la société, quand on parle de maltraitance, on pointe souvent du doigt les marâtres. Lorsqu'un enfant a perdu sa mère ou le papa a divorcé et s'est remarié, souvent, on taxe les marâtres de maltraiter les enfants de la rivale.
Oui, c'est vrai que ça, c'est une situation qui est courante plutôt dans des familles polygamiques ou dans des familles où des enfants sont issus des lits différents, même si le mariage est monogamique, dans des familles où les enfants sont issus des lits différents et où il y a une tendance à la discrimination de l'un ou de l'autre groupe d'enfants qui ne seraient pas d'une maman ou de la maman qui est maîtresse des séants. Et donc, en ce moment-là, il faut que les personnes qui sont en charge de la famille sachent que toute discrimination à l'égard d'un enfant, ça veut dire, j'insiste sur la question de l'âge, tout enfant, toute personne âgée de moins de 18 ans est une infraction à la loi du 10 janvier 2009 qui protège l'enfant congolais. Mais dans certaines circonstances, le même agissement peut être une infraction à la loi du 20 juillet 2006, des deux lois du 20 juillet 2006, qui protège l'enfant contre toute forme de violence sexuelle. Et donc, en plus de ça, je rappelle les dispositions de l'article 192 de la loi de 2009. Il faut que les personnes adultes qui sont au courant de cette maltraitance soient à même de la dénoncer devant l'autorité, le parquet, la police ou même devant le tribunal. Et ici, le tribunal compétent pour des questions qui touchent à l'enfant, aux intérêts de l'enfant, c'est le tribunal pour enfants, conformément aux dispositions de la même loi de 2009.
Bien, nous avons en ligne Maître Mputu Iloa, président du tribunal pour enfants d'Ndjili. Maître Mputu, bonjour. Allô, Monsieur Mputu, bonjour. Voilà, il nous entend pas encore, on va les retrouver tout à l'heure. Alors, je vais lire quelques réactions des auditeurs, Ntamboué et des internautes. Merci à tous ceux qui ont réagi sur la page Facebook de Capi Service. Ntamboué, depuis Béni au Nord Kivu, nous dit la loi 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant est claire quant à ce. L'enfant a droit d'aller porter plainte devant le tribunal en cas de violation de ses droits, car l'enfant a droit à la vie, à l'éducation, aux soins médicaux, à l'alimentation et aux autres. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet, Maître Charles? Allô, Maître Charles?
Puis 1987, avec le Code de la famille, puis passant par... déjà en 1959 en fait, parce que la première loi qui régissait la protection de l'enfant en République démocratique du Congo datait de 1959, et passant par 87 avec le Code de la famille, 2006 avec les deux lois qui modifient le Code de procédure pénale et le Code pénal pour ce qui est des violences sexuelles, et finalement en 2009, le législateur considère un enfant comme toute personne âgée de moins de 18 ans. Et cette personne est considérée par le législateur comme un être vulnérable qui a besoin d'une prise en charge totale et entière par sa famille, commençant par ses parents, et éventuellement lorsque les parents n'y sont pas ou qui sont empêchés ou qui sont absents ou qui sont décédés, par la personne ayant l'autorité tutélaire ou curatelle sur l'enfant. Alors, l'enfant est ainsi considéré parce que, un, du point de vue physique, il est vulnérable. Du point de vue de la capacité de produire, il n'a aucune capacité pour pouvoir produire de quoi se vêtir, de quoi se nourrir, de quoi se payer les frais de scolarité, etc., de quoi se protéger. Et du point de vue de sa sécurité, il n'a pas suffisamment, il est tellement vulnérable du point de vue physique qu'il peut justement être victime d'une puissance supérieure à la sienne du seul fait de sa faiblesse, de sa fragilité. Et donc, les parents, les tuteurs, les curateurs ont l'obligation de veiller en tout temps sur les intérêts de l'enfant, faute de quoi il viole la loi de 87, le Code de la famille, en ce qui concerne les dispositions de protection de l'enfant. Il viole les dispositions de la loi de 2006 et celle de 2009. Et donc, l'enfant est protégé plus dans sa vulnérabilité que dans toute autre chose. Ce n'est pas le cas pour des personnes adultes qui, à partir de 18 ans, ont toute leur volonté pour s'engager dans toutes sortes de contrats, dans toutes sortes de sports, dans toutes sortes de combativités, et dans toutes sortes de contrats d'embauche. Ils peuvent être capables de générer des revenus pour se nourrir, pour éventuellement payer le reste de leurs frais de scolarité, ou pour aider leurs parents même justement à couvrir un certain nombre de besoins de la famille. Ce qui n'est pas le cas de l'enfant, sauf quelques exceptions qui sont prévues par le Code du travail pour ce qui est de l'enfant qui a atteint 16 ans et qui peut être engagé dans le cadre d'un contrat d'embauche, sous quelques réserves qui sont déjà prévues par le législateur.
Bien, on va accueillir tout à l'heure Monsieur Mputu Iloa, président du tribunal pour enfants d'Ndjili, et il n'est pas maître comme je... on l'a dit tout à l'heure. Avant cela, nous allons accueillir des auditeurs, Platini Mbombo de Mbandaka et Serge Kalobia de Kindu. Platini, bonjour.
Jean-Louis, bonjour. Je salue mes collègues. Je salue l'invité au studio.
Quelle est votre question par rapport à la maltraitance des enfants?
Voilà, merci beaucoup aujourd'hui. Je pense que la thématique des jeux est louable et aussi à rapport avec ça. Je dois sincèrement remercier un peu l'invité. Bon, j'ai bien suivi l'invité comme il a dit tout à l'heure, que surtout comme on a des parents, on doit essayer un peu de voir de la part des choses. Alors, à rapport avec ce qui se passe ici à travers le pays, ou soit ce qui se passe à travers nos différents enfants au niveau de la maison, tout ça, là maintenant, ça pose un sérieux problème. Moi, je pense que même le Japon a essayé de mettre aussi et mis en place ce qu'on a dit le tribunal pour enfants. Mais souvent quand on a eu à voir ce qui se passe au niveau des tribunaux pour enfants, ça n'est pas ça n'évolue pas bien. Je dis ça n'évolue pas bien parce que moi aussi j'ai assisté à un enfant au niveau des tribunaux. Vous allez constater que il y a ce qu'on a l'argent. Vous allez constater que c'est lui qui prie, parce que l'enfant a causé un petit problème au niveau de la maison, mais lorsque son père est arrivé au niveau du tribunal, vous allez constater que ça crée aussi des problèmes au niveau des magistrats. Alors, ce qui peut y avoir un peu d'idée aussi au niveau de l'invité qui est aussi avec vous, je pense que c'est lui qui est spécialiste à l'intérieur, si réellement que la maltraitance au niveau de l'enfant au niveau de la maison, si la cohabitation n'arrive pas à concorder entre l'enfant et leurs parents, qu'est-ce que je dis dans les prochaines choses? Voilà un peu ce que j'ai pu avoir l'éclaircissement par rapport à l'invité qui est au studio aujourd'hui.
Bien. Serge Kalobia, vous êtes à Kindu. Bonjour.
Bonjour, Radio Capi, et bonjour à l'invité et aussi à vous, monsieur le journaliste.
Bien. Quelle est votre question, Serge?
Oui, je n'ai pas du tout une question. Je pourrais avoir une ou deux, mais je voudrais quand même apporter aussi quelques contributions par rapport à l'émission. Vous savez, je voudrais aussi être beaucoup plus sociologique que l'invité lui-même. Je ne voudrais pas être juridique. Vous savez, nous sommes inspirés par la parole de Dieu. Hein? Nous sommes dans une société où Dieu lui-même a créé. Mais vous savez, dans la Bible ou dans les Corans, Dieu lui-même a autorisé en quelque sorte ce que les juristes appellent aujourd'hui une maltraitance. C'est-à-dire, on est dit qu'on parle avec des mots, avec des caresses. L'enfant ne comprend pas, l'enfant n'écoute pas, il faut le fouetter. Le fait là de fouetter l'enfant aujourd'hui, ça devient une violence et ça pose problème. Je voudrais aussi attaquer les problèmes de l'enseignement chez nous. Pourquoi aujourd'hui l'enseignement chez nous est devenu catastrophique? Pourquoi? Parce que l'enfant n'a plus peur de l'enseignant, parce que si l'enseignant ose seulement fouetter un seul coup à l'enfant, l'enfant quitte la maison et part chez les parents automatiquement interpellent l'enseignant à la police et l'enseignant sera dans une position un peu intenable. C'est pourquoi vous allez voir dans une salle où l'enseignant est en face des enfants qui sont entêtés. Et l'enseignant a déjà peur, développe déjà les mécanismes de la peur. Parce qu'il ne sait plus éduquer l'enfant avec la parole, les enfants ne comprennent plus. Mais au moins, si l'enseignant avait, dans son temps, où nous on étudiait, l'enseignant avait un fouet, c'est ça. Même s'il ne vous fouette pas beaucoup, mais il peut vous faire une ou deux ou trois fouets, aujourd'hui ça pose problème. Mais on a vu aussi avec les systèmes de matraque, quand les musées Joseph Kabila. Monsieur Kabila, il nous a amené aussi des matraques. Vous avez vu, messieurs les journalistes, les filles qui portaient des pantalons, qui pouvaient tout laisser voir ni avec des matraques des policiers, il y avait déjà la paire entre ces filles.
Donc, vous soutenez par là qu'il faut de temps en temps fouetter les enfants pour les ramener à l'ordre.
Je ne souhaite pas, parce que si je le souhaitais, je risque de me retrouver aussi quelque part coincé par la justice congolaise aujourd'hui. Vous savez, nos enfants aussi suivent cette émission et les écoutent même à travers l'internet. L'enfant sera entêté que non, mais mon papa, s'il ne me donne pas seulement l'ordre à travers la parole, il ose seulement me toucher, je pars à la police, je pars dénoncer, automatiquement, c'est la violence. Voilà, nous allons déjà en contradiction avec la parole de Dieu. Et nous allons en contradiction avec nos propres mères, c'est parce que nous sommes en train de copier ce qui s'est fait. Maintenant, je voudrais poser une question à monsieur l'invité, vite, parce que je ne suis pas le seul. Monsieur l'invité, la question c'est quoi? J'ai avec moi, je vous donne mon propre cas avec ma fille ici aînée qui s'appelle Amina, elle est dans une école ici de la place. La fille ne sait pas me saluer. Elle me passe le matin, mais elle se réveille, elle ne me salue pas. Je la conseille, elle ne sait pas. Elle ne salue pas sa maman, tout comme ses frères. Là où elle part aux études, saluer quelqu'un pour elle, c'est un problème. Maintenant, arrivé ici à la maison, hier matin, je l'ai tapé. Moi, j'ai dit, mais toi, aujourd'hui, il y a un mois, deux mois, je te conseille, tu n'écoutes pas. Mais aujourd'hui, avec cette émission, si elle comprenait, et aussi si elle écoutait cette émission, elle risque d'aller porter plainte chez moi. Mais aujourd'hui, j'ai vu le matin, elle m'a salué parce que je l'ai fouetté hier. À haute voix, papa, bonjour. Mais moi, j'ai vu que c'est la peur que j'ai.
D'accord. D'accord. Merci. Oui. Merci, Serge. Alors, Maître Charles, est-ce que le fait de fouetter un élève à l'école ou un parent de taper son enfant, c'est à mettre sur le compte de la maltraitance?
Bon, d'abord en tant que parent, je voudrais revenir sur la dernière partie de la préoccupation de l'intervenant de tout à l'heure. Je ne sais pas quel âge a l'enfant, mais toujours est-il que plus l'enfant grandit, plus il découvre son environnement, plus il se découvre lui-même, et plus il adopte des attitudes qu'il juge qu'elle le protège suffisamment. Quel est le niveau de dialogue qu'il y a entre les parents, le père, la mère et l'enfant? Ça, c'est très, très, très important, parce qu'il faut accompagner l'enfant dans sa croissance. Il ne faut pas lui imposer une ligne de croissance au point que il commence à se comporter de manière à vous faire plaisir et à se comporter en dehors de la famille exactement comme il entend se comporter. Donc il faut être sûr qu'on accompagne l'enfant, qu'on découvre l'enfant, qu'on le corrige amicalement et qu'on l'aide à s'épanouir. Lorsqu'un enfant ne salue pas ses parents, il y a un conflit au sein de l'enfant, dans son fort intérieur. Et il est bon que le parent approche plutôt amicalement l'enfant, plutôt que d'essayer de lui imposer une attitude que lui croit raisonnable. L'enfant, c'est une personne à part. Elle n'est pas vous-même, elle n'est personne d'autre. Chaque personne a son identité personnelle et il faut essayer de reconnaître dans chaque enfant ses propres capacités, ses propres défauts et l'approcher de manière à l'aider à découvrir la partie de la vie que vous voulez lui faire découvrir. J'ai 4 enfants qui ne se ressemblent pas et chacun a ses attitudes, chacun a ses habitudes, chacun grandit à sa manière. Je ne peux pas tous les réduire à une attitude telle que chacun doit me saluer de telle manière le matin, chacun doit me saluer de telle manière le soir. Y en a qui ont une voix rauque, qui croient qu'ils sont déjà plus grands que papa et qui développent des attitudes de chef. Il y en a qui sont très humbles, qui sont fragiles et qui ont besoin plus de la protection de papa. Et donc, il faut chaque fois reconnaître en un enfant une individualité personnelle et personnifiée pour pouvoir l'aider à découvrir la partie de la vie que vous voulez l'aider à découvrir et non pas lui imposer des attitudes que vous pensez être raisonnables, mais qui sous d'autres cieux pourraient ne pas être raisonnables justement. Il faut aider l'enfant et l'accompagner dans sa croissance. Ça c'est vraiment une réponse de parent que je donne qui n'a rien à voir avec le juridique. Par contre, je voudrais insister sur le fait que si aujourd'hui les différentes lois de notre République qui porte protection de l'enfant n'opère pas de manière optimale, c'est parce que chaque fois, le législateur est tellement ambitieux, il crée des structures dont il ne pourvoit ni en termes d'expertise, ni en termes d'équipement, ni en termes d'infrastructure, ni en termes de budget. Lorsque vous lisez la loi de 2009 sur la protection de l'enfant, par exemple, et qui institue la possibilité du placement social de l'enfant dans une famille d'accueil. Mais comment organiser une famille d'accueil, organiser cet accueil plutôt, si déjà la famille d'accueil elle-même n'est pas coachée sur ce qu'elle est censée faire pour accueillir cet enfant et pour l'aider à grandir, pour ne pas se superposer à la famille de laquelle il vient, etc. Il y a la création des tribunaux spéciaux pour les enfants, c'est vrai, mais qui doivent fonctionner avec l'assistance des corps des assistants sociaux. Les assistants sociaux, depuis 2009 jusqu'à ce jour, n'ont pas été recrutés. Et il n'y a aucune formation possible, on n'a pas prévu une école ou des curriculums de formation qui pourraient aider l'État à disposer effectivement des corps d'assistants sociaux qui aident les juges à appréhender avec compétence les questions liées aux enfants. Et ça, ce sont les articles 74 et 76 de la loi de 2009. Il y a aussi l'institution des procédures extrajudiciaires, notamment la médiation pour des faits bénins, afin d'éviter à l'enfant le traumatisme et la stigmatisation lors d'une procédure judiciaire. L'article 132 de la loi de 2009, qui prévoit cette procédure extrajudiciaire, n'est pas mis en branle. Et donc, l'assistance par l'État à une famille démunie pour l'aider à accueillir. Donc, déjà, l'État n'a fait que appauvrir toutes les familles aujourd'hui. Vous n'avez qu'à regarder tous ceux qui travaillent à l'État et regarder, examiner, tirer les conséquences sur la qualité de la vie qu'ils ont. Les fonctionnaires de l'État, les enseignants, les médecins qui travaillent pour l'État, etc., sont tous très appauvris par l'État, esquintés par l'État, mais en même temps, ce sont ces familles-là qui sont sollicitées pour être des familles d'accueil des enfants qui sont maltraités dans d'autres afin de les aider à grandir. Et donc, la responsabilité de l'État dans toute cette question est totale. Et il faut effectivement aujourd'hui ramener le législateur à l'ordre. À défaut de voter un budget conséquent pour le fonctionnement optimal, harmonieux de toutes ces institutions qu'il a mises en place, les supprimer tout simplement et ne pas faire le copier-coller avec le droit occidental et qu'on revienne plutôt au renforcement de l'autorité parentale au sein de chaque famille afin que chaque famille soit entièrement et totalement rendu responsable de l'éducation en interne, les parents principalement. Et donc on revient peut-être aussi à l'instauration de la crainte révérentielle d'un papa. Il n'est pas possible qu'un papa soit en concurrence de discipline, d'autorité avec son fils dans une maison. C'est pas possible. C'est pas admissible.
Et donc, Maître Charles, il y a un auditeur qui pose une question dans ce sens-là, Mathieu Cassis, qui dit ceci. Il a appelé ça un conflit de pouvoir entre les parents. Par exemple, papa donne l'ordre, un ordre à l'enfant et maman vient saper cet ordre, demande à l'enfant de ne pas exécuter ou soit la maman punit l'enfant et le papa fait le contraire, il lève la punition. Et d'après lui, ça peut conduire à une maltraitance, une forme de maltraitance de l'enfant.
Nous avons plutôt affaire à un législateur désordonné. Notre législateur, depuis les débuts de 2000, il est désordonné et il prend des réformes plutôt de manière parcellaire. Lorsqu'on veut réformer le régime de protection de l'enfant, on doit faire de l'harmonie avec tous les textes depuis 1987, le Code de la famille, jusqu'à ce jour, pour être sûr qu'il n'y a pas chevauchement dans un certain nombre de choses. Lorsque le Code de la famille érige le père en chef de ménage et en chef de famille, il lui donne l'autorité totale et entière sur tous ceux qui sont dans la famille, sur la maman, sur les enfants. Bien entendu, il ne faut pas oublier que le père est conjoint quand même à la maman et qu'il y a un maximum de respect qu'il se doit, de collaboration aussi pour l'éducation des enfants. Mais il n'est pas question de remettre en cause l'autorité parentale à l'égard des enfants, ni l'autorité maritale à l'égard de la maman, pour contenter un certain nombre de lobbies extérieurs en faisant le copier-coller des textes qui n'ont aucune possibilité d'être appliquée dans notre pays. À mon avis, la loi de 2009 et les deux lois de 2006 sont certainement quelques avancées, mais c'est des lois tout à fait désordonnées par rapport aux principes qui sont déjà posés par le code de la famille, qui est de loin beaucoup plus adapté aux réalités congolaises. Je voudrais bien taquiner la plupart des personnes qui ont soutenu toutes ces réformes, notamment le code de la famille, mais il s'agit pour la plupart, et je l'ai toujours dit, des personnes qui n'avaient pas qualité pour statuer sur ces questions, parce que la plupart de fois, c'est soit des femmes non mariées, soit des femmes divorcées, soit des femmes veuves, qui s'immiscent dans la gestion de la famille, alors qu'elles sont déjà libres elles-mêmes. Elles n'ont aucune capacité de réfléchir sur des choses qui ne les concernent pas. Et donc, nous devons revenir aux valeurs qui sont logées dans la loi de 87 et être sûr que nous consolidons la famille, notamment l'autorité paternelle et l'autorité parentale, pour être sûr que nous avons un seul point d'ordonnancement de l'ordre au sein d'une famille. Il n'y a aucune famille qui fonctionne de manière harmonieuse qui a besoin des entrées aussi désordonnées des textes et qui donnent autant de liberté à l'enfant, de la liberté dont peut-être l'enfant n'a même pas besoin pour sa croissance. Aujourd'hui, au nom de la liberté de l'enfant, Il y a beaucoup de dégâts. On est en train de déplorer aujourd'hui que dans des écoles publiques comme privées, on trouve des enfants de 14 ans, de 15 ans, garçons, qui sont plongés dans des questions de sexualité irresponsable. Tout simplement parce que les enfants ayant découvert cette liberté qu'on leur a donnée ont plutôt plongé dans l'irresponsabilité générée par l'État lui-même à cause du sens très haut de l'irresponsabilité du législateur congolais qui, en lieu et place de faire des réformes cohérentes, holistiques, se permet par moment de prendre des lois de manière très isolée, juste pour contenter un certain nombre de lobbies occidentales. Moralité de l'affaire, on tue la famille.
Bien, maltraitance des enfants, que dit la loi congolaise à ces sujets? On en parle avec Maître Charles Mouchizi, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Des questions et préoccupations, composez le 081-890-63-94.
Vous êtes une femme leader, vous connaissez une femme leader.
Responsable politique, haut cadre d'État, avocat, juge, journaliste, responsable dans la société civile, le monde académique, les entreprises publiques, les organisations internationales, les ONG, entrepreneurs ou encore leaders communautaires. Connectons-nous, faites-vous connaître pour intégrer le premier annuaire des femmes leaders en RDC, produit par ONU Femmes, l'Organisation des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes.
Contactez-nous par téléphone au 082 629 11 54 ou alors par email femmeleader@gmail.com.
Bien, vous êtes sur Okapi, une voix pour tous. Nous parlons aujourd'hui dans Okapi Service de la maltraitance des enfants qu'est due la loi congolaise à ces sujets. Nous avons un auditeur en ligne, Charles Kisimba, depuis Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour aussi à Maître.
Quelle est votre question, Charles Kisimba?
Oui, en tout cas, je dis avec votre autorisation, j'aimerais juste me focaliser surtout à ce qui concerne les causes de cette maltraitance. Ici à Lubumbashi, c'est devenu une monnaie courante. Quand nous étions à l'université, on nous a appris à jeter des droits que la loi n'interdit pas de croire au Kindoki. Mais la loi n'interdit pas, la loi ne reconnaît pas la sorcellerie comme étant une infraction. Mais ce qui se passe dans notre église, c'est carrément autre chose. Il y a les prophètes ça et là qui malveillent les enfants comme étant des sorciers. Et d'un seul coup, les enfants se retrouvent être abandonnés par leurs parents. Ils sont maltraités, ils sont jetés sur les avenues, sur le riz. Alors, on ne sait pas qu'est-ce que les jetés peuvent nous dire qu'à passer. Tantôt, la loi ne reconnaît pas la sorcellerie, mais de l'autre côté, le prophétie de l'église en fait, c'est pour ta merveille. Voilà un peu mon inquiétude.
Bien, merci. On va accueillir André Flori Kiamba, président du tribunal pour enfants Kinshasa Ngaliema. Monsieur André Flori Kiamba, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Bienvenue dans cette émission. Vous venez de suivre la question de Charles Kisimba de Lubumbashi. Il dit que la loi n'a pas érigé la sorcellerie en infraction, mais il y a beaucoup d'églises aujourd'hui qui taxent les enfants des sorciers. Et bon, ces enfants sont maltraités et se retrouvent dans la rue. Qu'est-ce qui est prévu dans la loi par rapport à ces genres de situations?
Oui, merci beaucoup de la question. Je pense que c'est une question qui est préoccupante parce qu'elle est d'actualité tout le jour dans notre pays. Il s'est fait que beaucoup d'enfants sont victimes de maltraitance de la part des parents ou de ceux qui en ont la garde. Et parmi ceux qui en ont la garde, on peut citer le parent du côté famille maternelle ou paternelle. Il s'est fait que ces enfants-là, de temps en temps, sont soumis à des actes de maltraitance compte tenu de la vie sociale qui se passe au niveau de leur famille. De quoi il s'agit exactement? Lui, il a cité le cas des enfants dits sorciers. La sorcellerie elle-même ne constitue pas une infraction en droit congolais. Mais il s'est fait que le fait de maltraiter un enfant qui est dit sorcier constitue par contre une infraction dans les chefs de celui qui commet ces actes-là sur la vie de l'enfant. Il peut s'agir d'un parent ou d'un proche parent. Quel que soit les motifs, lorsqu'il s'attaque à l'enfant et le maltraite, cela constitue une infraction que lui est en train de commettre, et non pas l'enfant. L'enfant n'a pas commis l'infraction. C'est lui qui commet l'infraction. Mais malheureusement, des fois, ces actes ne sont pas dénoncés au niveau des instances judiciaires compétentes pour que ces auteurs-là soient poursuivis. On les constate au niveau non seulement des familles, mais également au niveau des églises. Mais qui amène les enfants au niveau des églises? Ce sont les parents que nous sommes. Et la plupart de ces enfants, ce sont des enfants issus de foyers en rupture, par exemple, familiale. Il y a eu un cas de décès d'un parent. L'autre parent restant, lorsqu'il se remarie, soit c'est la femme, soit c'est le mari, donc soit le marâtre, soit le parâtre, qui se permet à poser des actes de ce genre à l'égard des enfants tout en les maltraitant, ce qui constitue la cause même première des enfants que nous voyons dans la rue. Ces enfants sont en rupture familiale, pourquoi? Parce qu'ils ont subi des exactions, ils ont subi des maltraitances de la part des parents. Ceux qui ont la charge de les éduquer, de les encadrer, malheureusement, ont démissionné de leur responsabilité, de leur autorité, pour, par manque de moyens ou pour quelque raison que ce soit, se permettre plutôt à maltraiter les enfants plutôt qu'à mieux les éduquer.
Alors, André Fleury, lorsqu'un enfant est victime de la maltraitance, qui a qualité de porter cette affaire devant le tribunal pour enfants?
Nous sommes en matière de protection de l'enfant, monsieur le journaliste. Donc, toute personne est acteur de protection de l'enfant, en commençant par l'enfant lui-même. Donc, nous devons agir ensemble. Quand il y a de tels actes, quand il y a de tels comportements dans le chef de tel ou tel parent, il faudra dénoncer cela. Auprès de nous, il y a toujours des postes de police. Parce que ces parents-là ne relèvent pas de la compétence du tribunal pour enfants. Il n'est pas justiciable du tribunal pour enfants. Il est justiciable des juridictions ordinaires. Il est question de saisir la police tout en nous écrivant. Et nous pouvons faire le suivi par le biais des assistants sociaux avec un juge qui peut faire le suivi de ces dossiers-là. Mais sinon, la personne, comme elle est adulte, elle relève de la compétence des juridictions ordinaires. Il faut dénoncer les comportements de ces au niveau de la police et pourquoi pas au niveau du parquet. Si cela nous parvient par mégarde, il y a des gens qui arrivent, ils disent non, c'est un enfant, nous portons la cause devant le tribunal pour enfants, d'accord. En ce moment-là, c'est à nous, le tribunal pour enfants, de saisir justement par voie d'une requête qui nous sera faite par l'assistance sociale. Nous ouvrons un dossier RSD ici, donc dossier en matière d'enfants en situation difficile, ce qui nous permettra également d'orienter la personne ou les proches parents auprès du parquet. Voilà comment ça s'est passé.
Bien. Il y a un cas, par exemple, dernièrement, on avait suivi deux enfants du côté d'Ouvira, un oncle les avait brûlé les fesses après avoir fait passer le fer à repasser sur leur derrière, parce que ces enfants s'étaient permis de prendre du pain ou de manger quelques gâteaux sans autorisation. Alors, pour une telle faute, quelles peuvent être les sanctions à l'égard de ces proches parents?
Oui, il s'agit d'un acte infractionnel qui a été commis par ces parents-là. Parce que l'enfant s'est retrouvé en cas de besoin, il faudra absolument qu'il trouve à manger. À qui revient la responsabilité de donner à manger aux enfants? C'est aux parents. Même si aujourd'hui nous assistons le fait que le soir, ce sont les enfants qui sont dans les rues en train de vendre des pains ou des cacahuètes ou ceci ou cela pour venir retourner la famille pour nourrir la famille. Non. La charge incombe aux parents de nourrir les enfants. Si un enfant, par le fait de chercher un pain parce qu'il avait faim, venait d'être brûlé par un de ses parents avec un fer à repasser
très chaud là, oui.
C'est regrettable. J'ai connu un tel cas quand j'étais au parquet dedans le centre de Matete. Nous avons reçu un cas d'un enfant. À l'époque, la loi portant protection de l'enfant n'existait pas encore. Mais aujourd'hui, la loi est là. Si un parent se comporte de cette façon-là, il faut qu'il soit directement transmis devant les instances judiciaires compétentes, comme je le disais tout à l'heure. On ne peut pas laisser un tel parent impuni parce qu'il est capable aussi de les tuer. Cet enfant, nous avons besoin de lui. On ne sait pas ce qu'il deviendra demain ou après-demain. L'État a besoin de cet enfant. Tout le monde, nous avons besoin de cet enfant. Le problème qui se pose, c'est celui des communications. Nous ne communiquons pas en matière de protection de l'enfant. Donc, vous êtes là, dans la société, vous êtes saisi d'un cas, mais on s'éteint, on ne fait absolument rien. On n'arrive pas à informer les services compétents. Quels sont les services compétents? Nous sommes au niveau des communes. Au niveau de chaque bureau communal, il y a un service des assistants sociaux qui sont affectés. Tout comme au niveau du tribunal des tribunaux pour enfants. Il est question de dénoncer ce genre de comportement et agir ensemble pour que les auteurs soient sévèrement punis.
Bien, Maître Charles, lorsque les parents sont pauvres et envoient les enfants, les petits-enfants dans la rue pour vendre de l'eau, des cacahuètes ou cirer les chaussures, c'est une forme de maltraitance.
Oui, ça fait partie de maltraitance parce que cela, je le disais tout à l'heure, que cela ne relève pas de la charge des enfants. Il ne revient pas aux enfants de nourrir les parents. C'est nous, parents, qui devons chercher les moyens pour nourrir nos enfants. Là où vous êtes journaliste, vous travaillez à la radio Capi, vous êtes là pour travailler, à la fin du mois, vous êtes payé, et avec votre salaire, vous devez être à mesure, justement, de prendre votre famille en charge. Par famille, on entend les pères, la mère, et les enfants, et tous ceux qui sont derrière vous. Donc, c'est notre charge à nous. Nous ne devons pas envoyer les enfants avec tous les risques qu'ils courent, nous les savons tous, dans les rues de Kinshasa ou dans d'autres villes, ou à travers les pays, pour chercher comment trouver des moyens afin de nourrir la famille. Non, ce n'est pas une charge pour les enfants. Les enfants doivent aller à l'école, ils doivent étudier, ils doivent justement bénéficier de l'éducation, de l'appui et de tout ce dont ils ont besoin pour un épanouissement meilleur. Et non pas les laisser dans les rues pour aller chercher comment faire nourrir la famille.
Mmh. Maître Charles Mouchizi, vous êtes en ligne?
Oui.
Voilà, je disais tout à l'heure, voilà, déjà on a la réponse par rapport à cette question. Alors, Maître Charles, pouvez-vous nous rappeler la procédure lorsqu'il y a un cas de maltraitance, soit les voisins ont remarqué que les enfants dans l'autre famille sont souvent maltraités, on leur prive de nourriture, ils vont pas à l'école, ils sont maltraités tout le temps. Comment procéder pour dénoncer ces genres de choses?
Là, nous sommes plus ou moins dans des principes déjà de droit commun, en plus de quelques dispositions qui sont spécifiques à la protection de l'enfant. Lorsque un enfant est maltraité, lorsqu'un enfant est victime d'une infraction, parce que la maltraitance, c'est un concept plutôt à connotation sociologique et pas juridique, lorsqu'un enfant se trouve être victime d'une infraction, toute personne, au sens de l'article 192 de la loi du 10 janvier 2009, peut porter la dénonciation devant l'autorité. Alors, au-delà du fait que toute personne puisse le faire, le parquet peut se saisir d'office parce que le parquet, c'est l'organe de l'État dont la compétence est de rechercher les infractions en toutes circonstances de lieu et de temps et de les porter en accusation devant le juge. Bien évidemment, puisque la police judiciaire fonctionne sous la houlette du parquet, la police judiciaire a les mêmes attributions que le parquet en matière de recherche d'infraction et de l'accusation contre les personnes qui s'en trouvent être les auteurs. Et donc, au-delà du fait que toute personne a l'obligation de porter cette accusation, que le parquet et la police judiciaire sont des organes de l'État dont la mission est de rechercher les infractions et de porter les accusations contre les auteurs ou les présumés auteurs, les parents ou toute personne qui a un intérêt particulier à protéger les intérêts de l'enfant doit pouvoir dénoncer devant l'autorité, que ce soit la police judiciaire, le parquet ou devant le juge directement, tout comportement qui viole les droits de l'enfant. Et ça, c'est du droit commun que vous trouvez dans le code de procédure pénale, mais aussi du droit spécifique à l'enfant que vous trouvez dans les deux lois de 2006 qui modifient et complètent le code de procédure pénale et le code pénal ordinaire, mais aussi dans la loi du 10 janvier 2009, qui, elle, est encore beaucoup plus spécifique sur la protection de l'enfant.
Bien, on va accueillir Gilbert Lokwa de Mbandaka. Bonjour. Gilbert Lokwa,
oui,
bonjour.
Bonjour, la radio Papi, et je salue l'invité.
Quelle est votre question?
J'ai une question à poser à l'invité, mais avant tout, je salue d'abord la pertinence de l'émission du sujet, parce que aujourd'hui, si vous parcourez les rues de Kinshasa, même si c'est en Mbandaka, vous allez trouver beaucoup des enfants qui sont dans la rue. Et si vous leur demandez pourquoi ils sont dans la rue, ils passent la nuit, les journées dans la rue, parce que Et ils vous diront que non, ils sont maltraités à la maison, les parents n'ont pas pu prendre conscience ou n'ont pas pu être la charge des enfants aujourd'hui, ils sont dans la rue. Donc, c'est un problème. Et pour résoudre ce problème, il faut l'implication de tout le monde. Mais la question que je voulais poser à l'invité, parce que tout au long de l'émission, j'ai bien suivi l'invité, il n'a pas touché l'élément de sa, qui est l'essentiel aujourd'hui. Parce que nous voulons aussi savoir quelle est vraiment la peur ou le code principal qui pousse que non, aujourd'hui, les enfants soient retrouvés et maltraités. Parce que tout au long de l'émission, l'invité n'a pas vraiment déniché la cause ou les causes principales pour ce qu'aujourd'hui, des enfants soient maltraités.
D'accord, merci. Oui. Monsieur André Flori Kemba, quelles sont les causes, pourquoi les enfants sont de plus en plus maltraités?
Oui, mais les causes sont nombreuses. Cela dépend d'une famille à une autre. Je peux citer parmi les causes. D'abord, le fait que ces enfants-là sont issus finalement des familles économiquement faibles, ça peut être une cause. Des familles monoparentales, avec un parent qui souvent laisse les enfants sous l'autorité d'une personne, d'un membre de famille qui ne veille pas sur eux. Mmh. Et lui, là, ailleurs, il est au service. Ou des familles récomposées. Il y a un père et une mère qui se sont remariés alors que les pères avaient déjà des enfants avant ou la mère avait déjà des enfants avant. L'un des parents qui est parâtre ou marâtre se permet à maltraiter les enfants. Ce qui fait que ces enfants-là, ne pouvant pas supporter les actes commis par les parents sur eux, le fait, par exemple, de leur priver à manger. Quand les pères rentrent, ils étaient au service, les enfants sont restés avec leur mère, leur marâtre. Le soir, la marâtre qui a préparé difficilement, des fois par manque de moyens, ne trouve pas de repas suffisant pour donner à tout le monde. Il se contente de ses propres enfants que des enfants qu'il a trouvés dans le ménage. Et en ce moment-là, ces enfants, issus de l'ancien foyer, risquent de passer des nuits entières comme ça sans manger. Et au soir, au retour de leur père, les enfants ne vont pas tout dire à leur père, craignant que le jour suivant, ils seront maltraités. Mmh. C'est comme ça que, cachant la vérité, ne sachant pas comment dénoncer ces comportements de la marâtre ou du parâtre, les enfants préfèrent aller vivre dans la rue. Dans la rue, pourquoi? Parce que dans la rue, ils vont trouver leurs amis, ils peuvent commander ça et là, afin de trouver un pain, afin de manger pendant la journée ou pendant la soirée.
André Flori, on a beaucoup d'enfants dans la rue aujourd'hui, qu'on appelle Chege, Maïbobo, à Kinshasa et ailleurs. Oui. Quelles sont les sanctions? Est-ce que ces parents ou les tuteurs ont été sanctionnés par le tribunal pour enfants?
Oui, cela constitue l'infraction de délaissement d'enfants prévue et punie par la loi portant protection de l'enfant, qui relève bien sûr de la compétence de juridiction ordinaire, comme je le disais, parce que le délaissement de l'enfant constitue une infraction. Ce n'est pas au juge d'enfant de pouvoir poursuivre ces enfants, ces parents-là. C'est plutôt un poste de police qui peut être saisi ou un parquet. C'est tout à fait normal parce qu'il s'agit d'une infraction de droit commun, mais relevant de la loi spéciale qui est la loi portant protection de l'enfant. Lorsque les parents ont commis ces infractions-là, sont-ils poursuivis ou pas? Je le disais tout à l'heure, il faudra dénoncer. Il faudra que l'on puisse saisir ces services-là pour qu'ils soient poursuivis. L'infraction existe. Donc, il faudra que le service judiciaire soit saisi afin que des poursuites soient engagées contre l'auteur de ces actes contre les enfants. Les enfants en ont été victimes. Il faudra que nous puissions dénoncer et voir comment justement engager des poursuites contre leurs auteurs.
Bien. Et pour terminer, un enfant accusé de sorcellerie, un prophète, on l'a amené à l'église, on dit que c'est lui qui avait mangé, entre parenthèses, ses parents, ou qui est responsable de la mort d'une personne dans la famille, et on les soumet à des traitements inhumains, à des séances d'exorcisme, et finalement, ils se retrouvent dans la rue. Qui peuvent être sanctionnés dans ce cas-là, les prophètes, ou ce sont les parents qui sont allés consulter ces fameux prophètes?
Oui, tout le monde peut être poursuivi. Tous ceux qui ont été impliqués, de loin ou de près, en complicité ou en corréité, sont tous auteurs, d'une manière ou d'une autre, parce que chacun a contribué à sa façon dans la commission de l'infraction. Le prophète a été, ou ont souvent été saisis par les parents, je l'ai dit au commencement de notre émission. C'est nous, parents, qui portons le problème devant les églises. Et les églises s'acharnent autour de ça. traitant ces enfants-là de sorciers. Moi, j'ai toujours dit, chaque fois quand même, quand je tiens des séminaires ou quand je m'entretiens dans le cadre de la protection de l'enfant, j'ai toujours dit que les vrais sorciers ne sont pas les enfants, les vrais sorciers, ce sont les parents qui traitent les enfants de sorciers. Parce que comment expliquer que ces enfants-là, qui sont issus d'une mère qui est décédée ou avec qui on s'est divorcé, sont considérés comme des sorciers, alors que les enfants naissant dans ce même foyer ne sont pas traités de la même manière. C'est justement un cas de maltraitance que les enfants subissent au niveau de famille. Et lorsque de tels cas se produisent, nous pouvons que justement dénoncer. L'enfant sorcier, est-ce qu'il existe? Moi, je doute toujours. Je doute, bien sûr, les journalistes. Parce que j'ai hébergé chez moi à Mbandaka. Il y a un auditeur de Mbandaka. Moi, j'étais président du groupe enfant de Mbandaka de 2011 à 2016. Donc, il y a eu des enfants qu'on a amenés chez moi au bureau accusés de sorcellerie. Et nous avons engagé des poursuites ensemble avec les parquets contre les auteurs. Mais quand je prends l'enfant, je l'amène chez moi. Chez moi, je dis chez moi, dans ma famille. Il peut passer un mois. Et je me rends compte que l'enfant n'est pour rien. Je le confie à une famille d'accueil qui reste avec l'enfant pendant un an, deux ans. Ce sont les mêmes parents qui reviennent pour demander au président, nous aimerions récupérer notre enfant. Mais finalement, vous l'avez traité de sorcier. Quand on regarde, ce ne sont pas les enfants qui sont sorciers, c'est nous les adultes.
Ce sont les adultes qui sont sorciers.
Qui sont de mauvaise foi et qui traitons les enfants de sorciers. Donc c'est nous qui sommes sorciers.
Bien, Maître Charles Mouchizi, je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Kinshasa Matete. Pour terminer, qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à aux dispositions légales à propos de la maltraitance des enfants? Maître Charles.
Oui, je crois c'est de systématiser la protection de l'enfant comme le veut le législateur à travers ces différentes dispositions de la loi du 10 janvier 2009. Les organes de protection sont prévus, notamment les protections sociales sont prévues au titre de l'article 74 de cette loi. Et il y a dans ces organes le Conseil national de l'enfant, le corps des conseillers d'orientation scolaire et professionnelle, le corps des assistants sociaux, la brigade spéciale de protection de l'enfant, le corps des inspecteurs du travail, le corps des inspecteurs de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Ça fait six organes qui sont prévus par la loi, mais bien évidemment qui sont très théoriques aujourd'hui parce que si on compte depuis 2009 jusqu'à ce jour, ça fait plus de 10 ans que le législateur nous a doté d'une loi irréaliste et irréalisable. Aujourd'hui, je crois que ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut renforcer plutôt l'autorité parentale et l'autorité maritale aujourd'hui qui a été diluée dans des lois vulgaires prises par le législateur et qui ne peuvent pas permettre à un mari, à un papa, d'assumer l'autorité, entièrement l'autorité qui lui est dévolue par la nature et par Dieu de manière cohérente.
Merci,
je crois qu'il faut aujourd'hui réformer les lois en leur donnant un contenu applicable, réaliste et réalisable.
Bien, on n'a plus beaucoup de temps. Maître Charles Mouchizi, avocat au barreau de Kinshasa Matete, merci. Nous disons également merci à André Flori Kiamba, président du tribunal pour enfants de Kinshasa Ngaliema. Excellente journée et à la prochaine.
Au revoir.
Merci beaucoup.
Bien, tout à l'heure, nous allons suivre des informations et on va se retrouver juste après pour la deuxième partie de cette émission qui sera consacrée, qui va se focaliser sur l'organisation d'une chaîne de solidarité en cas de catastrophe. Appelez déjà pour participer au 081 890 63 94.